Shalom, shalom, shalom. Bien-aimés en Christ et chers amis de la plateforme Bible Méditer Vie Gagnée et toute la communauté de tous nos amis, de tous nos frères et sœurs qui sont réunis ici. Nous vous saluons dans la paix, dans la joie et dans la victoire que seuls nous avons en Jésus-Christ et que nous comptons préserver en lui et en lui seul. Amen, amen, amen. D'abord, je tiens à nous excuser pour ce retard inhabituel dans nos programmes, indépendant de notre volonté. Mais comme nous promettons et nous voulons tenir notre promesse, comme Dieu le fait aussi et veut que nous le fassions, c'est que peu importe la situation, la méditation aura bel et bien lieu. Amen. Et ainsi, Dieu nous donne maintenant la grâce de pouvoir partager avec vous le livre de Apocalypse au chapitre 12. Amen. Alors, pour les présentations, nous saluons d'abord notre hôte, le Saint-Esprit, lui qui crée en nous le vouloir et le faire. Et nous saluons aussi tout un chacun de nous. Et nous saluons surtout les présentateurs, les animateurs du jour. J'ai nommé votre humble serviteur moi-même, le frère Orphée des États-Unis, en collaboration avec nos bien-aimés, le frère Espoir, et son épouse, la sœur Natacha, au Togo. Nous vous souhaitons et nous nous souhaitons ensemble la bienvenue. Nous allons tout de suite prier et après la prière, nous allons commencer à partager sur les questions déjà orientées du jour que nous avons proposé dans notre annonce préalable. Prions. Saint-Esprit, nous t'invitons. Règne sur cette journée, règne sur nos vies, règne sur ce ministère, règne sur nos familles, règne sur nos initiatives. Nous voulons recevoir tout ce que tu veux nous donner. Viens, règne, sois libre au milieu de nos Saint-Esprit. Nous t'attendons. Viens gouverner, sois libre au milieu de nous, Saint-Esprit. Nous t'invitons, nous invoquons le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang précieux de Jésus. Nous plongeons dans ce sang, Rabba, nous saturons l'environnement dans ce sang. Dans le nom de Jésus, Jésus nous donne l'autorité de lier les démons, nous les lions, nous les chassons au nom puissant de Jésus-Christ. Ça a donné l'autorité d'imposer des mains aux malades et de voir les malades guéris. Nous prions pour ceux qui sont malades parmi nous, que ce soit des maladies physiques, spirituelles, raïkataraba, qu'ils soient libérés, qu'ils soient guéris, qu'ils soient délivrés, rababa, qu'ils soient restaurés. Dans le nom de Jésus, nous prions pour tous ceux qui sont encore dans les chaînes diverses, liés, rababa, on prie rababa pour la délivrance, la délivrance, la délivrance, la délivrance. Le sang, façon de que le façon, que le façon, dans le nom précieux et puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. 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 Alors, bien-aimés en Christ, pour le texte de ce jour, j'espère que vous avez écouté nos audios. Vous savez, à la communauté BMVG, nous sommes tellement gâtés. Nous avons le test biblique au quotidien en audio. Parfois, on nous donne même des vidéos. Finalement, il y a même les textes écrits que vous avez dans vos Bibles écrites. Et finalement, il y a des personnes qui prennent le temps d'aller faire des recherches pour venir nous aider à rentrer dans la profondeur des textes pour ne pas rester dans la superficialité de ces textes. Et ainsi, aujourd'hui, nous abordons le livre de l'Apocalypse au chapitre 12. Nous avons posé deux questions. La première question, c'est en relisant donc les six premiers versets de Apocalypse 12, pourquoi le dragon s'était-il attaqué à la femme dans les lieux élevés? Ça, c'est la première question. Ensuite vient la deuxième question, comment la victoire contre le malin fut-elle acquise de Dieu par ses anges avec la participation de toi et moi, bien sûr, que tu es aussi dans le combat, dans ce combat, et en les relisant un peu la partie de versets 7 jusqu'à 18, nous voyons dans cette réalité. Nous allons donc rentrer en profondeur dans les textes. D'abord,
Pourquoi attaque-t-on une femme dans les lieux élevés? D'abord, il faut savoir le symbolisme du livre des Apocalypses. L'Apocalypse est un livre qui est seulement adressé à ceux qui ont des oreilles pour entendre. Et l'Apocalypse est un livre vraiment plein de symboles. Il faut avoir la révélation pour comprendre ça. Et vous allez être surpris quand je vous dis que tout ce que l'Apocalypse a dit, nous sommes en train de vivre une partie maintenant. Vous voyez le Covid avec tout ce que ça fait comme dégâts. Le Covid se trouve dans l'Apocalypse. On parle de maladies incurables, peu importe si ça a été créé par les hommes ou bien ça a été lâché par Dieu. Tout ça là, ça fait partie de l'Apocalypse, ça a été prévu. Et nous disons aussi que l'Apocalypse est en fait une suite logique du livre de Daniel. L'Ancien Testament, c'est Daniel, où il y a vraiment des révélations. Dans le Nouveau Testament, c'est Apocalypse, où il y a vraiment des révélations. Et Dieu a révélé à ces personnes qui étaient très proches de lui. Daniel était très proche de Dieu et Jean était très proche de Jésus. Voyez. Bien-aimé, quand tu es proche de Dieu, Dieu va te révéler des choses que les autres ne vont même pas comprendre. Ils vont voir, mais ils vont pas comprendre. Ils vont entendre, mais ils vont pas savoir ce que c'est. Ainsi, l'Apocalypse ici nous révèle que la femme, en fait, c'est l'Église. L'Église du Christ, parce que l'Église, c'est l'épouse de Jésus. Quand Jésus va revenir pour prendre son épouse, enfin, il va prendre l'Église. Or, l'Église est constituée de quoi? De tous les croyants en Christ qui marchent dans l'obéissance à lui et vivent dans l'humilité en attendant son retour. Voilà. Cette épouse-là, elle est convoitée par le malin depuis le début de la création. Vous allez me dire pourquoi le frère Orphée? Je dis, retournons dans le livre de Genèse, au chapitre 2, au chapitre 3. Déjà dans le chapitre 2, au verset 18, Dieu a vu qu'il n'était pas bon pour l'homme qu'il a créé d'être seul. Il a dit, faisons une aide semblable à l'homme. Et Dieu n'est pas retourné à la terre pour créer la femme. Il a pris des côtes, des fondations de l'homme pour créer la femme. Donc, généralement, les femmes sont une dimension, une génération supérieure aux hommes. C'est pour ça que Dieu les ramène souvent pour dire, soyez soumises à vos maris. Ne pensez pas que parce que vous êtes d'une génération supérieure, vous allez grimper la tête de vos maris. Non, soyez soumises à vos maris. Ainsi, cette femme a été convoitée par le diable qui s'est transformé en serpent. Il s'est habillé dans la peau de serpent pour venir tenter la femme. Parce que sachant que la femme est en puissance, si elle tombe dans la tentation, elle pourra entraîner facilement son homme. Je voudrais faire remarquer ici que nos femmes doivent faire très attention à toutes les instructions, tous les conseils qu'elles reçoivent, à tout ce qu'elles lisent, à toutes les informations qu'elles acceptent en elles-mêmes. Parce que si elles ne fuient pas ces informations, c'est souvent des dégâts qui arrivent. J'ai récemment eu à travailler avec un certain nombre de couples et j'ai vu généralement quand les crises sont dans les couples, ce n'est pas parce que les deux ne sont pas des personnes qui s'aiment. Ils s'aiment. Mais c'est parce que quelque part, l'une des deux personnes du couple a tendance à écouter soit les autres ou bien à s'écouter lui-même ou elle-même, ou bien à écouter des voix qui sont de l'extérieur, qui sûrement viennent de démons et de Satan. Et donc, en écoutant et en mettant en application ce qu'elles ont écouté, ça rentre en contradiction avec ce que l'autre attend de lui ou bien d'elle. Et c'est là où les incompréhensions commencent, c'est là où les frustrations sont générées, c'est là où les palabres commencent. Et finalement, si on ne gère pas ça, on ne coupe pas le mal à la racine, on ne traite pas la maladie dès sa source, ça crée d'autres problèmes difficiles. Voyez. La femme ici, dans le livre de l'Apocalypse, c'est l'Église. Et cette Église est convoitée. De la même façon que Ève a été convoitée et poussée dans le péché, de la même façon, la femme, l'Église, que nous formons est convoitée. Et c'est depuis les lieux élevés que la femme est convoitée. Parce que quand tu commences à rentrer en relation avec Christ, ou bien en relation avec Dieu en Christ, Dieu te donne une nouvelle créature. Quand Dieu voit toi, il ne voit pas toi en tant qu'être personne. Il te voit en tant que Christ qui est en toi. Donc, tu prends cet esprit-là l'Esprit de Dieu qui vient habiter en toi et te permet de siéger dans les lieux élevés. Un des passages de la Bible dit que nous sommes assis dans les lieux élevés en Christ. Et quand le diable veut nous attaquer, il va d'abord nous attaquer dans les lieux élevés. Vous allez me dire encore pourquoi. Regardez le livre de Job. Quand il voulait attaquer Job, qu'est-ce qu'il a fait? Il est d'abord allé demander permission à Dieu. En challengeant Dieu pour dire, c'est parce que tu aimes Job que tu lui fais du bien. Essaie de le laisser un peu entre mes mains. Je vais bien le tourner, le trimballer. Tu vas voir qu'il va te maudire et il va t'abandonner. Tu as dit, tu as menti. Je vais te laisser faire, mais tu ne toucheras pas sa vie. Donc, qu'est-ce qui se passe dans les spirituels souvent? C'est grave. Et c'est pour ça que nous devons être là tout en train de prier. Ainsi, la femme ici, c'est l'Église, vous avez bien compris maintenant. Maintenant, le dragon dont on parle, c'est quoi? Il ne faut pas aller chercher. De la même façon, il s'est transformé en serpent, le diable, dans le jardin d'Éden. De la même façon, il se transforme aussi en serpent, en dragon, ou bien en serpent ancien. Il y a plein de textes dans la Bible que vous pouvez voir qui déjà rappellent que c'est lui qui se manifeste de cette façon-ci. Par exemple, les gens ont posé la question de savoir, Satan était-il vraiment le serpent dans le livre de Genèse chapitre 3? La réponse que les gens ont donnée et qui est bibliquement correcte, c'est oui, le serpent de la Genèse 3 était bel et bien le serpent qui soit est apparu sous la forme d'un serpent, soit a pris la possession d'un serpent, soit a trompé Adam et Ève en leur faisant croire que c'était le serpent qui leur parlait. Les serpents ne parlent pas, vous le savez bien. Apocalypse chapitre 12, verset 9 et Apocalypse 20, verset 2 décrivent donc Satan comme le serpent. Il s'empara du dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, l'enchaînant pour 1000 ans. Vous voyez ça dans Apocalypse chapitre 20, verset 2. Il fut jeté dehors. Le grand dragon, le serpent ancien appelé le diable et Satan, celui qui égare toute la terre, il fut jeté sur la terre et ses anges furent jetés avec lui. Apocalypse 12, verset 9. Donc vous voyez à peu près quelques références pour vous situer, pour dire que ce dragon dont on parle, c'est bien Satan, le diable, Lucifer, qui a été précipité du haut des cieux parce qu'il a voulu se mesurer à Dieu. Qui le fait. Alors, Satan a une haine féroce contre tout ce que Dieu fait. Et c'est un rebelle éternel contre Dieu. Son histoire se trouve aussi dans la Bible qui nous a été révélée. Si vous voulez en savoir plus, vous pourrez aller voir dans le livre de Jude, du chapitre 1, au verset 6 à 9. Je vais peut-être vous rappeler, si on dit que les anges aussi qui n'ont pas gardé leur pouvoir, mais qui ont abandonné leur propre demeure, il les tient en réserve dans l'obscurité par les liens éternels pour le jugement du grand jour, comme Sodome et Gomorrhe, et les lits et les villes d'alentour qui, de la même manière que ceux-ci, s'étaient livrés à l'impudicité et qui avaient recherché les unions contre nature, sont devant nous comme un exemple, subissant la peine du feu éternel de la manière vraiment ceux-ci aussi plongés dans leur rêverie. Bon, c'est un peu ce passage que je voulais, mais il y a un autre passage où on décrit clairement comment Lucifer s'est levé contre c'est Ézéchiel 28, verset 16 à 17 plus tôt. Il dit ici, par ton commerce chez toi, par ton commerce, tout chez toi a été plein de violence. Tu as péché et je t'ai chassé comme un profane de la montagne de Dieu. Je t'ai fait périr au chérubin protecteur au milieu des pierres de feu. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as perverti ta sagesse par l'effet de ton éclat. Je t'ai précipité par terre et je t'ai donné en spectacle au roi. Ça aussi, c'est une référence à ça. Vous verrez aussi dans Ésaïe 14, verset 12 à 15, qui dit ceci. Comment es-tu tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore? Comment es-tu renversé en terre, toi qui foulais les nations? Toi qui disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assierai sur la montagne de l'assemblée, dans ses profondeurs du septentrion. Je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut. Te voilà pourtant descendu aux enfers, dans les profondeurs de la fosse. Amen. Autant de références bibliques pour nous faire comprendre que c'est Satan, et Satan est contre tout ce que Dieu fait, surtout contre l'Église de Dieu. Parce que l'Église de Dieu, c'est la perfection que Dieu se réserve à elle-même pour se réconcilier totalement à l'humanité quand Jésus sera venu pour enlever son Église. Donc, quand nous voyons, on parle de femmes enceintes ici. L'Église doit enceinter quoi? Des croyants comme toi et moi. Le corps de Christ attire vers lui des croyants comme toi et moi. Des gens qui, avant, ne croyaient pas, ou bien étaient dans la religion, dans les traditions, même dans le mysticisme, et un jour ont été touchés par le message de la bonne nouvelle et ont compris que leur conviction intérieure d'être pécheurs, on parle de conviction du péché, leur est venu, ils ont accepté qu'ils étaient pécheurs, ils ont confessé ça, ils ont demandé pardon à Dieu, ils ont invité Jésus dans leur vie pour venir les sauver et les sorti de cette misère, et Jésus est venu dans leur vie. Dieu même leur a fait devenir enfants de Dieu, d'après ce que le livre de Jean, chapitre 1, nous donne. Donc, nous tous, nous sommes appelés à sortir de l'Église, c'est-à-dire à sortir de cette femme enceinte-là, à être accouché par cette femme enceinte, parce que l'Église sur la terre, c'est la seule entité qui représente véritablement la présence et la puissance de Dieu sur la terre. Et c'est pour ça que l'Église doit se lever. Actuellement, l'Église est en train de dormir, surtout au niveau du Covid. On dirait que les gouvernements sont plus puissants que l'Église sur la terre. Ce qui ne devait pas être le cas. L'Église doit se lever tout simplement parce que c'est à l'Église que Dieu a redonné le pouvoir. C'est à toi et moi qui formons l'Église que Dieu a redonné le pouvoir. Donc tu comprends que nous devenons une menace pour tout ce que le malin veut faire sur la terre. C'est pour ça qu'il s'est levé contre la femme. Parce qu'en tuant la femme, il pouvait tuer aussi l'Église qui était en elle, les croyants qui étaient en elle. Mais Dieu n'a pas voulu cela. Et ainsi, je conclue en disant que c'est parce que, un, l'Église est l'épouse de Jésus. Donc, une plus belle créature que Dieu s'est réservée à lui-même. Et de deux, parce que cette Église était enceinte de toi et de moi, qui sont des croyants que Dieu veut rassembler ensemble pour la réconciliation finale et pour le jugement dernier, que Satan s'est levé en fureur pour nous attaquer dans les lieux élevés d'abord. Mais il fut combattu et battu, et il a été précipité sur la terre. Amen, amen, amen. Donc c'était le premier round du combat. Le deuxième round maintenant, c'est dans la deuxième question. On dit, comment la victoire contre le malin fut-elle obtenue de Dieu par ses anges avec la participation de toi et de moi dans ce combat spirituel dans les versets 7 à 18. Je ne veux pas relire les versets, mais je vais prendre quand même un verset qui me tient à cœur. C'est dans le livre de Apocalypse, donc au chapitre 12, verset 11, qui dit ceci. Donc je vais commencer à partir du verset 10, qui dit ceci. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ensuite, cette phrase-là, vous allez bien souligner ça. Verset 11 dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Verset 12 dit, c'est pourquoi, réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Amen. Ensuite, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a très peu de temps. Bien aimé, nous avons bien compris que si Dieu est dans ta vie, c'est que tu es très précieux, n'est-ce pas? Nous avons bien compris que parce que tu es précieux, l'ennemi, juré numéro un de Dieu, va t'attaquer. Ça aussi, tu le veux ou non, c'est ça. c'est la réalité. Surtout maintenant qu'il est sur la terre, précipité sur la terre, et que toi et moi nous sommes sur la terre, il faut être prêt à être attaqué. Mais Dieu merci, Dieu nous a donné les armes, Dieu nous a donné la grâce, et Dieu nous a donné l'armée pour nous aider à nous défendre et à continuer de triompher et de triompher et de triompher et de triompher du malheur et de son royaume des démons. Amen. Pour les gagner, il y a deux choses essentielles que Apocalypse 12, verset 11 nous révèle ici. Le sang de Jésus. Je ne veux pas trop m'étendre dans le sang de Jésus, mais je veux tout simplement te donner un témoignage de ce que le sang de Jésus est capable de faire. Même deux témoignages, si tu le veux, même trois, si tu le veux. Première chose, c'est que ce sang permet de retrouver les choses perdues. Il y a une de nos sœurs de leadership qui peut même donner ce témoignage où elle avait perdu de l'argent en fin décembre. Elle m'en a parlé, je lui ai dit, calme-toi ma sœur, nous allons tout simplement demander à Dieu d'activer son sang dans ta vie par rapport à cette recherche d'argent. Tu vas retrouver ton argent. Il y a cru, nous avons déclaré ensemble que le sang parle en la faveur de la dame pour qu'elle puisse retrouver son argent. Un mois plus tard, fin janvier, elle a retrouvé son argent. Il n'y a pas que elle. Mon père, qui a plus de 80 ans maintenant aussi, a fait cette expérience de perdre son portefeuille avec sa carte bancaire et tout ce qui est dedans. Quand il m'a parlé de ça, j'ai dit, papa, ne t'inquiète pas, il y a une clé qui est le sang de Jésus qui fait des merveilles quand on perd quelque chose. Est-ce que je peux prier avec toi? Mon père a dit oui, on a prié, j'ai invoqué le sang de Jésus-Christ. 3-4 jours plus tard, on l'a appelé pour dire qu'on a retrouvé son portefeuille. Bien aimé, si prochainement tu perds quelque chose, ou bien même quelqu'un, dans une relation par exemple qui s'embrouille, n'oublie pas que le sang de Jésus est là. Quand tu l'invoques, ça œuvre toujours en ta faveur pour te délivrer. Mais le sang ne s'arrête pas seulement à te permettre de retrouver les choses perdues. Le sang te permet aussi de te sanctifier. Sanctifier, c'est de rendre saint, rendre agréable à Dieu. Te permettre de créer en toi un système de pensée qui fait que tu vas beaucoup plus vouloir faire les délices de Dieu que de faire juste le plaisir du monde. Le sang permet de faire ça. Le sang te permet aussi d'être purifié de tes péchés. Quand tu as confessé tes péchés, tu demandes, Seigneur, purifie-moi par le sang. Le sang est une source de purification. Le livre de Lévitique en parle en long en large. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Finalement, le sang te justifie. Quand Dieu te voit et voit le sang de Jésus-Christ sur toi et en toi, il ne voit pas toi. Il voit le Christ qui est en toi, l'espérance de la gloire et l'assurance de la victoire. Donc, le sang est très important dans les combats spirituels. Invoquons-le souvent dans le combat spirituel. Invoquons-le souvent aussi pour d'autres faits, mais surtout dans le combat spirituel. Parce que le diable a horreur de voir le sang de Jésus-Christ. Amen. À côté du sang, il y a aussi la parole de nos témoignages. Quand on parle de témoignage, ce n'est pas seulement ce que tu dis blablabla aux gens. Ça doit être une démonstration de puissance, ce que tu racontes aux gens par rapport à ce que Dieu a fait dans ta vie. Le miracle de Dieu dans ta vie doit être vu par ceux à qui tu es en train de donner des témoignages. Je vais te donner un exemple. Tu dis par exemple que toi tu es en Christ et que parce que tu es en Christ, par exemple, tu avais une maladie comme le COVID et parce que tu as cru que le sang de Jésus qui te purifie, mais en même temps que tu déclares les promesses de Dieu pour dire qu'il envoie sa parole et sa parole te guérit. Et tu es resté sur cette déclaration ou bien tu as dit que Dieu est capable de te guérir parce qu'il a déjà prouvé en Jésus-Christ qu'en lui se trouve la guérison. Et tu es resté sur tes paroles. Bien sûr, tu vas être guéri. Maintenant, quand tu finis d'être guéri, là, tu ne vas pas te taire. Il faut que tu en parles à ton alentour pour qu'il voit que ah, tu étais guéri. Je me rappelle de ce témoignage de Papa Karambiri avec son épouse Hortense, où ils avaient attrapé le COVID en France. Et quand ils sont rentrés au Burkina Faso, on les avait mis en quarantaine et allés à l'hôpital. Et si vous suivez un peu le témoignage sur YouTube, eux, ils ne s'inquiétaient pas. Ils étaient là en train de prier parce qu'ils savaient que Dieu avait donné sa promesse et ils s'étaient tenus sur cette promesse pour dire qu'ils ne mourront pas, ils vivront pour raconter les œuvres de l'Éternel. Et c'est effectivement ce qui a été fait.
Notre témoignage est tellement puissant que ça fait fuir l'adversaire. Ça rappelle à l'adversaire que sa fin est vraiment une fin de jugement, une fin de défaite. Alors que nous, notre fin est plutôt une éternité que Dieu réserve pour nous. Bien-aimés, pour terminer, je vais tout simplement dire que n'oublie pas, le combat est perpétuel, mais la victoire est aussi actuelle. N'oublie pas de porter les armes spirituelles que Dieu met à notre disposition. Si tu ne te rappelles pas, va les retrouver dans le livre de Éphésiens, chapitre 6, tu vas le voir. La tête qui est là où nous portons les casques du salut. La poitrine qui est là où nous portons la cuirasse de justice. La taille, là où nous portons la ceinture de vérité. Et nous soulevons avec l'une de nos deux mains le bouclier de la foi pour éteindre les traits enflammés de l'ennemi. Et finalement, nous soulevons l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu, pour combattre les œuvres du malin et triompher, pour aller débloquer les situations bloquées et pour aller voir restaurer tout ce qui nous a été volé. Et quand tout cela est fait, encore une fois, on porte les souliers du témoignage de l'évangélisation pour aller dans le monde, pour raconter ce que Dieu a fait pour nous et annoncer la bonne nouvelle. Sur ce, je te souhaite vraiment de prendre le temps de bien reméditer sur cette parole de Apocalypse 12, verset 11, qu'ils les ont vaincus à cause du sang de Jésus-Christ et par la puissance de leur témoignage. Que cela soit ta portion, comme que cela soit notre portion aussi, dans le nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Saint-Esprit, nous te bénissons pour ce temps. Nous te bénissons pour le propos que tu nous as donné, la révélation. Nous te bénissons aussi pour les victoires que tu nous accordes en Jésus-Christ, dans son sang et à travers nos témoignages. Alléluia, amen, amen, amen.